Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. Vous savez que le rendez-vous, c'est de lundi à vendredi à partir de 11h sur votre radio. Nous y sommes. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à la 93.5. Le Togo participe à la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 9, à Yokohama au Japon. La délégation togolaise conduite par le président du conseil, Faure Gnassingbé, a entamé ses activités bilatérales. Le leader togolais s'est entretenu en tête-à-tête avec le premier ministre japonais Shigeru Ishiba. La rencontre élargie aux membres des deux délégations officielles s'inscrivait dans la continuité des échanges réguliers entre le Togo et le Japon, axés sur la recherche des solutions durables aux défis communs. Les discussions ont ainsi permis de faire le point sur l'état de la coopération entre les deux pays, tout en explorant de nouvelles pistes de partenariat dans des secteurs stratégiques. Faure Gnassingbé, qui a exprimé sa satisfaction sur la qualité du partenariat actuel, a affirmé sa volonté de le renforcer, notamment par une intensification des investissements nippons au Togo. Plusieurs domaines prioritaires sont notamment ciblés, dont la logistique avec le port autonome de Lomé. Le sujet nous intéresse au Club de la Presse et nous allons l'aborder puisque des journaux sont revenus sur cette rencontre au Japon. Et aujourd'hui, bien sûr, nous allons en parler. Nous aborderons d'autres sujets liés à l'actualité, tels qu'évoqués par des journaux, bien sûr, parus aujourd'hui dans cette émission Club de la Presse de ce jeudi 21 août 2025. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Coco, Vitor Guitomega est à la mise en onde. Jérôme Dakouta assure la mise en ligne. Je suis Pascal Lousseau au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nehor, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM, nous sommes à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou et puis Radio Kouktoisie à Dapaon. Vous le savez très bien, vous pouvez aussi nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook, sans oublier notre site internet www.canalfm.com et aussi sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. Un Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain et aussi du monde entier. C'est avec mes confrères journalistes et aussi des invités en plateau, bien sûr, avec moi, confrères journalistes. Ambroise Ponto, bonjour.
Oui, Pascal, bonjour. Bonjour les amis ici présents et nos amis techniciens. Je salue tout le monde, tous ceux qui nous suivent depuis Lomé jusqu'à l'intérieur du pays, même ceux de la diaspora. Je voudrais profiter de l'occasion pour envoyer ce message à nos amis motocyclistes, pas forcément les émigrants. On a comme l'impression que quand vous êtes sur la chaussée, eux ne respectent rien. La majeure partie ne respecte rien. Il faut filtre parmi les véhicules. Et quand ça arrive, l'accident survient, c'est eux qui sont les premiers à crier. Alors que les voitures ont leur couloir, les motos aussi ont leur couloir. Au Bénin, les motos ont leur couloir. Ici, ils se mélangent sur la chaussée. C'est pas normal. Et ça crée des accidents. Le véhicule ne bouge pas comme, le volant du véhicule ne bouge pas comme une moto. Manière dont ils faufilent là, ils font leur jeu là. On ne peut jamais remettre l'accident sur quelqu'un qui conduit un véhicule, à part les taximens qui jouent toujours à l'imprudent. Donc, quand vous êtes, d'abord nos routes ne sont pas larges. Mais vous conduisez. Et ils sont très nombreux. Ils faufilent, ils font tout pour vous dépasser. Bon, il tombe. Pascal, ce matin, j'ai été vraiment choqué parce que... Et ils sont les premiers à t'envoyer des insultes et ils partent comme ça. Ils peuvent même enlever ton rétroviseur et partir. Avec la chance qu'eux-mêmes ne tombent pas. Hier, il y a un qui suivait le Sotral. Il veut passer entre Sotral et un véhicule personnel. Il a dû tomber. Personne ne l'a regardé, les gens. Les gens l'ont contourné. Le Sautral ne sait pas qui l'a cogné derrière. Il veut tout faire pour passer derrière le Sautral. C'est vrai que les gardes du Sautral aussi conduisent des fois à des imprudences. Mais aujourd'hui, il faut encourager nos amis des policiers, la DSR et la police. La police fait son travail, il faut le reconnaître. C'est-à-dire que la dernière fois, c'est l'autre qui a brûlé le feu rouge à Tikoumé. Il est allé cogner quelqu'un d'autre. Ça, c'est devant moi. Heureusement que les policiers, la manière dont ils ont même rogné, ils sont intervenus. Le monsieur même sait que d'abord la moto peut faire 3 mois, et la BM là-bas. C'est le genre de choses que nous saluons. Et donc, il faut que nos amis soient imprudents. Malheureusement, ils n'écoutent pas. Peut-être la nuit, quand ils vont rentrer à 22h, ils vont suivre l'émission, ils vont écouter. Sincèrement.
D'accord. Merci, Ambroise Konzo, d'avoir répondu à notre invitation. Et Michel Yaout Sadza, bonjour.
Bonjour, Pascal. Bonjour, Canal FM.
J'espère que vous allez bien.
Par la grâce de Dieu, ça peut aller.
Dieu merci, ça fait plaisir de vous avoir dans cette émission. Nous avons un invité, je disais bien sûr que, alors, et quand on parle alors de Club de la Presse, c'est aussi des journalistes, c'est aussi des invités politiques. Alors ce matin, c'est bien Dr Kodzovi Obenton. Docteur, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à toute la presse togolaise. Bonjour à la jeunesse togolaise, bonjour au peuple togolais, bonjour aux dirigeants togolais.
Docteur, je rappelle que vous êtes justement le président alors du parti Nouvelle Vision. La Nouvelle Vision, bien sûr, qui a défini un certain nombre de choses, de recommandations surtout, dans ce moment que nous assistons, bien sûr, à partir, et donc on parle même d'ailleurs de moments de crise. Nous allons parler justement alors de ces questions, enfin de ces recommandations. Mais toutefois, je voudrais que vous reveniez un tout petit peu sur ce que Ambroise a annoncé tout de suite concernant surtout l'imprudence dans la circulation. Est-ce que vous arrivez à faire aussi le même constat ?
Le constat est le même, parce que quand vous voyez déjà, à certains niveaux, il y a le gouvernement qui a fait l'effort d'avoir des trottoirs, mais qui ne sont pas respectés. Et donc, c'est vraiment un appel très important que nous devons lancer à nous tous, citoyens togolais, pour le respect des codes de la route, parce que ça profite à la conservation de la vie. Quand, en ce moment, on perd encore une seule vie au Togo, on a beaucoup perdu. Parce qu'on a beaucoup de choses comme problèmes devant nous déjà. Et bien quand on se crée des problèmes supplémentaires, ce n'est pas bon. Donc je passe par le biais de cette question pour encourager les motocyclistes, bien sûr, qui sont à la chasse du peu pour manger la soirée et faire manger la famille. Mais la prudence est importante. Il est très important pour chacun de nous et aussi les conducteurs de véhicules, pas seulement les motocyclistes, nous sommes tous impliqués. Donc il faut que chacun commence ou bien recommence à faire patience sur le chemin pour ne pas devenir patient dans les hôpitaux.
Oui, docteur, c'est vrai que le problème, c'est que aujourd'hui, on parle plus alors de sensibilisation. Est-ce que au-delà de la sensibilisation, est-ce qu'il ne faut pas aller aussi vers l'ascension pour un certain nombre de choses? Parce que on a vu quand même le vendredi dernier où déjà il y a un engin poids lourd, un camion bien sûr qui transportait alors du ciment, qui a fait encore des victimes sous le pont de d'Agoué. Et là, ça veut dire que pour ce qui concerne même d'ailleurs la visite technique, on n'a pas eu quand même à le faire à temps. Et est-ce qu'il ne faut pas aussi des sanctions aujourd'hui?
Normalement, quand on parle de règles, quand on parle de règles justement, on doit parler de sanctions. Parce que règles sans sanctions, c'est comme si ce sont des conseils. Donc, il y a des règles, il y a des sanctions. Mais il faut que les sanctions soient honorées. Il faut que les gens arrivent à donner les sanctions qu'il faut, dans les conditions qu'il faut, pour que nous puissions tous comprendre que aller au-delà des règles, c'est mettre la vie des autres en problème. Donc sans ces sanctions, sans l'application de ces sanctions, les règles ne seront pas respectées. Et justement, quand je prends l'exemple du Bénin dont a fait allusion M. Ambroise, et au Bénin, quand on parle de limitation de vitesse, et il y a les outils qui peuvent aider aussi les forces de l'ordre à savoir qui va plus vite que l'autre. Donc quand on parle de sanctions également, il faut que ces sanctions soient appliquées d'une manière homogène. Personne n'est au-delà de la loi. Il faut des outils qu'il faut afin que les citoyens aussi comprennent que oui, voilà, je l'ai fait. Et voilà la preuve que ça a été fait.
Hmm. Michel, est-ce que vous avez aussi, vous avez peut-être l'impression qu'il y a une légèreté, surtout dans l'application de la loi, et c'est pour cela qu'on retrouve quand même ces cas d'accidents peut-être alors sur nos routes?
Est-ce qu'on va parler de légèreté dans l'application des lois? Moi, je dis le plus souvent, l'imprudence, hein. L'imprudence. Il faut vraiment comprendre que quand les gens sont sur la route, qu'ils soient sur des motos ou sur des, ou dans des véhicules, il y en a qui croient être dans leur salon, alors qu'ils sont sur des espaces publics, avec des règles, avec un code de la route qui doit s'appliquer à tout le monde. Et donc, il y a des gens, à un moment donné, vous vous demandez, est-ce que j'avais dit un jour quelque chose ici, ça fait rire les gens, mais j'étais sérieux. Et vous vous demandez, est-ce que leur vie là, ils pensent à leur vie par rapport à ce qu'ils font sur la route. Les policiers sont là, les gendarmes sont là, ils font ce qu'ils peuvent. Mais nous-mêmes, est-ce que nous sommes conscients de ce que nous faisons sur la route? Il y a des gens, Pascal, vous allez voir quelqu'un sur la moto ou quelqu'un sur un vélo en train de téléphoner, en train de faire WhatsApp sur le vélo. Bon, vous vous demandez, mais quel est son problème? Mais s'il y a une situation tout à l'heure, bon, on va créer un scandale.
Surtout qu'il est civilement irresponsable.
Voilà. Donc, on va dire que non, on ne faut pas, qu'on mette tout sur la tête des responsables de la sécurité routière. Je pense que à partir de ce moment, vraiment, il y a eu quelque chose qui est fait dans ce pays par rapport au code de la route et à ce que les usagers de la route doivent faire. On a maintes fois mis vraiment les policiers, les gendarmes sur la route pour essayer de nous rappeler que nous devons mettre nos ceintures de sécurité, le port de casque, on ne doit pas surcharger nous, que ce soit sur les motos ou dans les voitures, et tout ça là, mais on ne peut pas à un moment donné être derrière chaque citoyen. Il faut qu'on, nous-mêmes, nous devons prendre conscience de nous-mêmes, protégeons-nous avant de laisser tout à Dieu.
Surtout que la vie est sacrée.
Voilà, on ne peut pas laisser que, bon, c'est Dieu qui a fait, non, protégeons-nous et le reste Dieu va voir. Parce que Dieu a trop de choses à faire. Et que si vous pensez que c'est Dieu, mais mon frère, vous allez perdre votre vie, Dieu est là, il est en train de s'occuper des autres. Il faut que nous-mêmes nous prenions conscience que lorsque vous êtes dans la circulation, c'est que vous-même, vous devez penser à votre sécurité. Pensez à la sécurité de vos avis, de ceux qui circulent avec vous. Donc, c'est en le faisant, cette prise de conscience, quelqu'un veut sortir sur la route, et bon, il va tirer deux verres de... je ne vais pas dire ça, avant de prendre sa moto. Mais vous voyez ce qui peut se passer devant. Déjà à 5h30, les gens, on prend quelqu'un, mais il est déjà au 7e ciel. Mais bon, alors,
non, mais on ne peut pas. Oui, sur ce plan, entre-temps,
vous allez dire que c'est la police qui a fait quoi.
Michel, c'est vrai, sur ce plan, entre-temps, il y avait même d'ailleurs l'alcotesse qui était dans la circulation. Mais finalement, on ne retrouve plus cela.
Bon, c'était annoncé. Bon, entre-temps, on ne sait pas. Bon, ils ont remis ça dans les pipelines ou bien comment. Sinon, on attend.
D'accord.
Voilà.
On attend. Merci. Oui,
mais globalement, les services de sécurité, en tout cas sur la route, font leur travail. Mais nous aussi, appelons-nous. Il faut qu'on s'interpelle par rapport à ce que nos comportements sur la route. C'est pourquoi je profite de cette occasion. Comme tu as bien dit que est-ce que le laxisme ou bien, je profite de cette occasion pour attirer l'attention des services routiers. Que moi, je n'ai pas compris jusqu'à présent ce qui se passe. À Lomé, ici, les gens, les gens, si vous êtes à deux sur la moto et le deuxième n'a pas de casque, on vous arrête. Mais au-delà de Lomé, il n'y a rien. Il n'y a rien.
Oui, je suis parfaitement d'accord.
Est-ce que la mort, c'est dans la capitale seule? Moi, je me pose cette question. Pourquoi jusqu'à ce qu'il n'y a rien? Ça dit que peut-être celui qui conduit a le casque, l'autre n'a pas, et il n'y a rien. Mais à Lomé, on vous traque. Je ne comprends pas quelle est cette... Je n'ai pas encore compris pourquoi. Est-ce que la mort, c'est à Lomé seul?
C'est une belle question que voilà. Vous posez. Merci Michel. Nous sommes rejoints par Magula Kinviteko. Magula, bonjour.
Bonjour à toi Pascal. Bonjour confrère Michel et Ambroise. Et bonjour à tous.
Le sourire démontre quand même une belle vie à Palimé, notamment à Koumabala. Je ne sais pas si c'est vrai.
Non mais Michel ne me dira pas le contraire puisque Michel était avec nous de bout en bout. Et donc, vous l'avez dit, on était véritablement palimé le week-end passé pour célébrer à Goudié. C'était une belle aventure faite de retrouvailles et de traditions dans le présent. Et il faut dire que tout s'était bien passé, on ne pouvait pas demander mieux que ça.
D'accord, merci d'avoir accepté notre invitation. Lui, ça fait rare de le voir, je me demande si je le vois maintenant, je pourrais le reconnaître. Jean-Luc Grand pour le Rémi, bonjour.
Bonjour Pascal.
J'espère que vous allez bien.
Je vais bien, bonjour également au conférence studio, bonjour à l'invité, aux techniciens derrière la baie vitrée, à toutes celles et ceux qui nous écoutent sur Canal FM. Plaisir partagé de vous retrouver. Après plusieurs semaines d'absence.
Merci également. Justement, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous commençons cette émission. Oui, Ambroise.
Oui, c'est par rapport. C'est quand tu disais à Magloire qu'il est allé à Koumabala pour la belle vie.
Non,
la belle vie, ça, tout ça, ça. C'est... Sinon, bizarrement, j'étais pratiquement là-bas la dernière fois, pour la première fois. Et c'est une zone très... Moi, j'étais à Koumadame. Okay. Et ils étaient... c'était à l'occasion de la fête du Nenyozan. Et qui s'est couplé avec une fête, la fête du temple de la paroisse, pour laquelle moi, j'ai été invité. Et on est passé devant la route qui mène vers Koumabala. On m'a montré que c'est Koumabala. C'est des zones vraiment montagneuses, mais très, très, très froides. Et moi, j'ai aimé le climat. Et je me dis que, si c'est ici, Magloire vient chaque fois, et le risque, c'est qu'on ne le retrouve plus dans les histoires de la fête. Parce que, et tu l'as si bien dit, que la belle vie.
Merci beaucoup, Ambroise. Alors, on commence cette émission avec ce sujet, ce sujet que j'évoquais déjà au début d'émission. C'est par rapport à cette rencontre au Japon. Et je le disais, le Togo participe à la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 9. Et à Yokohama, au Japon, bien sûr, et la délégation togolaise, conduite par le président du conseil, Faure Gnassingbé, a entamé ses activités bilatérales. Le leader togolais s'est entretenu en tête à tête avec le premier ministre japonais, Shigeru Ishiba. C'est bien ça. Et, Ambroise, c'est vrai, il y a beaucoup de journaux qui sont revenus, bien sûr, sur le sujet. Il y a le journal Le Messager qui revient sur le sujet. Le Messager écrit TICAD 9. Fort à Yokohama. Autre journal, c'est Wara les vainqueurs, qui écrit Partenariat Afrique-Japon, le Togo affiche ses ambitions à la TICAD 9. Et un article à lire alors à la page 3 du journal. Autre journal, c'est Le Tonnerre, Tom Namsa, qui écrit TICAD 9 sur l'avenir de l'Afrique, le Togo au cœur des réflexions. Et également, le journal continue, fructueux échange entre le président du conseil et le premier ministre japonais. Ambroise, quand on suit justement cette actualité, on comprend tout simplement que l'Afrique ou l'avenir alors de l'Afrique se joue sur un autre continent.
Oui, c'est ce qui est malheureux. D'abord, à la forme, je crois que les Africains, les chefs d'État africains ont tendance à participer à des sommets. Les concernant sur d'autres continents, comme tu l'as si bien dit, et qu'au final, le retour en investissement est quasi inexistant dans certains pays comme le nôtre. Peut-être d'autres pays, surtout anglophones, en bénéficient énormément, le Kenya, le Ghana, le Nigeria, mais les pays francophones, en dehors de la Russie qui fait ce qu'elle peut, les États-Unis aussi d'une moindre mesure, et le Pays-Bas, l'Allemagne, qui investissent en Afrique. Et ces sommets-là sont souvent des occasions de villégiature pour nombre de chefs d'État africains, où certains même, arrivés sur les lieux, se demandent où est-ce que je suis. Et donc, pour le cas de Faure Gnassingbé, moi ça ne m'étonne pas, parce que les Togolais l'attendent le mieux sur le terrain. Les Togolais attendent toucher quelque chose de de concrets, d'actes posés à la suite de ces sommets. Et on a comme l'impression que ce qui se passe ici au Togo ne le concerne pas trop, hein, parce qu'il est trop volatile, il est devenu un papillon, il est dans tous les sommets. Alors que ces derniers mois, ces trois derniers mois, ça a été chaud chez nous au Togo. Et actuellement, la misère, non seulement la misère se lit sur les visages quand tu déambules les rues, mais la misère même a créé sa fondation ici au Togo. Au point que quand les gens entendent que Fonia Sindé est allé au Japon, est allé aux États-Unis, tout ça là, ça n'intéresse plus personne. Ça n'intéresse personne parce qu'ils ne touchent jamais le fruit de ce retour, c'est-à-dire de ces voyages-là. Rien. Nous, on a le gaz qui est à 10 000 francs. Le gaz qui est à 4 000 francs au Niger, à 2 500 ou 3 000 au Burkina, le gaz est à 10 000 francs, c'est alors que nous, on est au bord de la mer. Maintenant, ils vont à tout ça, ça rapporte quoi au Togo? C'est les retombées que les Togolais attendent. Mais tant qu'on n'aura pas ces retombées-là, ces voyages-là, c'est des voyages de villégiature. C'est des voyages touristiques pour un chef d'État qui veut être bien vu à l'extérieur, alors qu'au même moment à l'intérieur, il n'est pas du tout en odeur de sainteté.
D'accord. Docteur Ton, oui, quand on prend ces voyages, est-ce que vous aussi, vous avez l'impression que pour ce partenariat entre le Japon et le Togo, il y a beaucoup d'activités quand même hein, qui ont été réalisées, ou du moins, il y a des rencontres qui ont eu lieu lors de ce forum. Mais est-ce que vous avez aussi l'impression que ce n'est que de la villégiature?
Bon, nous, on ne parle que sur les faits existants, c'est-à-dire ce qu'on peut toucher de doigt. Parce qu'on fait l'analyse, on fait des propositions, mais on se pose la question de savoir combien de forats nous devons participer au Togo avant de commencer à vivre la réalité, les fruits, comme vous avez parlé d'un forum fructueux. Parce que déjà, 9e session, il y a plusieurs conférence internationale qui a vu le Togo en tant que participant, mais sur le terrain réellement, concrètement, il y a quoi? Si ce n'est pas l'agrandissement de la dette publique, si ce n'est pas l'accroissement des prix des denrées alimentaires, si ce n'est pas le manque de pouvoir ajuster les salaires des travailleurs, c'est-à-dire la réalité sur le terrain nous fait savoir que ces voyages ne sont pas productifs depuis plusieurs années. Mais si ces voyages sont productifs pour certains pays, cela peut nous laisser à dire que nos négociateurs de ces conférences ne sont pas performants. Parce que quand ils sont performants, ils s'en vont pour le Togo. Comme d'autres pays, il a cité le Ghana, il a cité certains pays. Mais pourquoi chez nous, on ne voit pas ces fruits? Soit ce sont des forats qui n'ont pas de sens, ou soit les négociateurs qui vont parler au nom du Togo ne sont pas performants. Il est temps que quand tu envoies des négociateurs jusqu'à 9 conférences, il n'y a pas de résultat, il faut changer.
D'accord. Michel, pour cette conférence ou cette rencontre, ce forum, tu souhaites-t-il que quand la délégation togolaise est au Japon, tu souhaites-t-il que c'est pour des négociations, c'est pour des partenariats? Mais est-ce que ce ne sont pas des partenariats qui pourront apporter quelque chose au pays?
Moi, j'ai une manière de voir, donc, parce que j'ai eu la chance d'aller à Abidjan lorsque, je pense, ça devait être TICAD 4 ou 5. Et j'ai écouté, en tant que journaliste, j'ai écouté ce qui se disait là-bas. Et je me suis dit que dans la vision à long termiste pour les États, si les discussions là vraiment sont sincères et bien suivi, ça veut dire que nos pays pourront gagner quelque chose dans l'avenir. Et dans le cadre du partenariat entre le Togo et le Japon, vous savez que, vous l'avez dit, sur le plan agricole, le Japon est là, sur le plan énergétique, et sur le plan portuaire, vous avez parlé de la zone, en tout cas du port autonome de Lomé. Donc, ces discussions-là, moi je me dis que, quand vous êtes un chef d'État ou un chef de gouvernement, vous devez aller à l'écoute du monde. Vous devez écouter comment le monde va. Et puis, rappelez-vous que cette conférence-là n'a pas réuni seulement les dirigeants africains et les dirigeants, en tout cas japonais. Il y a eu les Nations Unies qui sont là-bas, il y a le FMI, il y a la Banque mondiale, il y a l'Union même africaine qui est là-bas. Donc il y a beaucoup de choses qui se tissent là-bas parce que il y a quelque part, c'est mentionné que dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, il y a quand même une vision qui est tracée et que les chefs d'État dans le système intégré doivent quand même discuter, voir dans quelle mesure sortir notre continent de son état actuel. Et donc, moi, je ne trouve pas de problème que les dirigeants aillent écouter. C'est vrai que on se pose la question, bon, est-ce que c'est bien d'aller chez des gens pour parler de ce que nous devons faire chez nous? Mais dans le contexte actuel, par rapport aux puissances, et vous le savez aussi, ce n'est pas le Japon seul qui le fait avec l'Afrique. La Chine le fait, même la France le fait, les États-Unis le font, la Russie le fait. Et donc, dans un monde où multipolaire, il faut que les dirigeants quand même fassent cet effort d'écouter et de faire des propositions. Et il y a des choses qui se disent là-bas que forcément, il faut attendre 5-6 ans avant que les résultats ne sortent. Tu le disais tantôt. Moi, je ne pense pas qu'un chef d'État ou un chef de gouvernement sort, comme c'est le cas du PC, qu'il aille venir et le lendemain, on fait la queue, on nous distribue des pains. Non, ce n'est pas comme ça. Les dirigeants, quand ils voyagent, notre souhait, c'est que leur discussion, dans 5-6-10 ans, qu'il y ait des retombées pour tous ceux qui seront encore vivants et puis pour des générations à venir. C'est comme ça, moi, je vois la situation.
D'accord. Magloire, est-ce que vous avez l'impression que les retombées de ces rencontres sont visibles sur le terrain?
Et c'est là où je suis resté sur ma soif. Parce qu'en réalité, comme Michel le dit, aujourd'hui, aucun pays ne peut vivre en autarcie. Le monde est devenu un village planétaire où il faut s'imbriquer les uns les autres. Donc, c'est tout à fait normal qu'à un moment donné que les dirigeants du monde se retrouvent, n'est-ce pas, pour réfléchir à long terme sur le développement du globe. Donc, c'est tout à fait normal. Mais la réalité, c'est que quand on nous dit que TICAD a démarré en 1993 et que le Togo a été présent à toutes les éditions et qu'on soit encore en 2025 à se demander mais c'est quoi comme réalisation concrète qui sort de cette TICAD, c'est qu'il y a un problème. Soit ces foras sont importantes avec de réels projets, mais qu'on a du mal à les mettre en œuvre, ou alors on informe mal sur tout ce qu'on fait. Parce que je me dis, est-ce que à chaque édition, on va payer les billets d'avion pour les officiels et tout ça, logement et tout, ils vont aller, ils reviennent, mais en réalité, quand est-ce que la délégation officielle est revenue et a communiqué autour? Non. On communique quand le chef de l'État voyage, et on communique quand il revient des TICAD, et c'est fini. C'est en cela que moi je pense que au même moment qu'on estime qu'il est utile de participer à ces foras, à ces grandes conférences internationales, il faut plutôt penser à changer de paradigme quant à quand on veut rendre compte à la population. Pour moi, il est bien. Vous allez, le Togo tisse des partenariats avec les différentes entreprises et tout ça, comme on le dit officiellement. Mais je pense qu'au retour, il faut dresser un mécanisme qui puisse permettre d'abord aux journalistes que nous sommes d'avoir les éléments nécessaires pour pouvoir communiquer autour. En réalité, on est ici, mais on n'a pas des éléments tangibles comme ça. On dit partenariat entre le Togo et le Japon, ça date de plusieurs années. Mais concrètement, à part peut-être périodiquement, quand le Japon distribue des sacs de riz au Togo, on va dire que le port, le Japon est présent au niveau du port. Mais quand on te demande en tant que journaliste, qu'est-ce que le Japon fait concrètement au port de Lomé? Tu peux répondre? C'est en cela que j'ai dit, il faut peut-être changer de paradigme. C'est-à-dire que j'ai suivi un peu l'année dernière une approche béninoise. Je vous assure que j'étais séduit. Qu'est-ce que le gouvernement du Bénin a fait? Ils ont convoqué des médias de la sous-région. Et je crois que 3 ou 4 médias togolais étaient partis avec billets d'avion, hébergement. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont fait tout un programme sur 4-5 jours. Et chaque ministre a son programme. C'est-à-dire, on dit ministre de l'Agriculture, vous avez rendez-vous avec les médias de 8h à 9h30. Et lorsque tu seras devant les journalistes, tu décryptes tout ce que tu as bénéficié. Si c'est peut-être avec la France, le Japon, la Chine, tu décryptes tout ça. Et après, on va chez le ministre de l'économie, ainsi de suite. Et à la fin, mais comment toi, journaliste, tu ne peux pas avoir des rudiments nécessaires pour communiquer avec? Je pense que ce qui est bien, c'est ce qu'on peut...
Tu parles du Bénin, non?
Oui, Bénin, oui. Au Bénin, à côté, des journalistes togolais étaient allés. Ah oui, oui. Donc, je dis, mais quand c'est bon, il faut avoir l'élégance pour copier ce qui est bien que l'autre fait. Donc, je crois que au retour, on va essayer, n'est-ce pas, d'amener nos dirigeants à... D'abord, on les encourage parce que ce n'est pas facile. Mais la réalité, c'est que quand à chaque édition, ils y vont, ils reviennent, mais que le citoyen lambda ne sent rien de ce qu'ils sont partis faire là-bas, à part l'information classique, la délégation togolaise, Yokohama et tout, je crois qu'il y a un problème. C'est soit un problème de rendement ou de rendu, et c'est ce qu'il faut améliorer. D'accord. Et personnellement, je pense que c'est ce qu'il faudra améliorer.
D'accord. Jean, est-ce que vous avez aussi l'impression qu'il faut changer aujourd'hui de paradigme par rapport à ces rencontres auxquelles nous assistons?
Oui, évidemment. Nous avons même consacré deux articles à l'article. Je crois que peut-être tu ne les as pas vus. Notamment le premier sur la coopération entre le Togo et le Japon et le deuxième article se demandant pourquoi est-ce que le développement de l'Afrique va toujours se décider ailleurs. Et sur cette question, ça amène à réfléchir parce que, vous voyez, il y a 60 ans, le Ghana avait le même PIB que la Corée du Sud, la Côte d'Ivoire était au même niveau que la Malaisie, mais aujourd'hui... Vous ne pouvez pas comparer ces nations-là. Et qu'est-ce que l'Afrique pense d'elle-même? Moi, c'est la première question que moi je me pose. Parce que 60 ans après, si nous étions à une certaine position et qu'on voit que certains pays ont atteint notre niveau, mais il faut qu'on commence par se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Qu'est-ce qu'ils ont pratiqué? Et que nous n'avons pas pratiqué. Aujourd'hui, l'Afrique est devenue un gâteau que tous les pays se partagent. Vous avez le sommet Russie-Afrique, France-Afrique, même Corée du Sud-Afrique. Tous les grands pays là traitent avec l'Afrique.
L'Inde, la Turquie. L'Inde,
voilà.
Mais depuis quand on attend peut-être maintenant l'Italie et la Grèce.
Voilà. Depuis quand vous avez vu par exemple un sommet Chine-Europe ou bien États-Unis-Europe? C'est des choses rarissimes parce que ces pays-là se respectent en fonction de leurs capacités. Mais nous, nous allons toujours en position de mendiant. En position de mendiant. Tout le continent africain va se réunir au Japon. On ne refuse pas. Mais en termes de coopération, après ça, on en est où? Nos matières premières, à ce jour, on est incapable de les transformer. Mais dites-moi, quel développement on veut? C'est vrai, le Japon et tous les pays, quand ils viennent proposer ce qu'ils vont gagner, en fait. On vient nous aider. Quelquefois, on nous montre que le Japon nous a offert du riz, comme la dernière fois. Voilà, mais mis à part ça, le côté transformation même, on n'arrive pas encore à capitaliser. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, nos dirigeants ont un problème de leadership et de vision. Il faut qu'on se projette, qu'on se dise, dans 10, 15, 20 ans, où est-ce qu'on veut aller? En fait, c'est ça le topic. Mais quand on n'a pas une vision de ce qu'on veut avoir, mais on va continuer par tourner en rond. Ces forats vont être des moments où peut-être, ouais, on a des bains de foule, on se salue, on discute avec les sommités et tout ça. Mais concrètement, comment qu'on peut capitaliser, valoriser ça? Aujourd'hui, la Chine est là où elle est, mais tout le monde savait là où la Chine était. Mais à un moment donné, la Chine a dit, bon, nous voulons rivaliser avec les pays occidentaux. Voilà comment on veut mettre en place notre développement, le travail et beaucoup de choses. Et aujourd'hui, la Chine est aujourd'hui l'atelier du monde. Il n'y a rien que vous ne pouvez faire sans la Chine. La Russie aujourd'hui dicte sa loi, même aux États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis discutent d'égal à égal avec la Russie. Mais quand est-ce que l'Afrique, elle, va penser son développement? Ce n'est pas les solutions qui manquent. Mais c'est juste qu'il faut qu'on pose les bonnes actions, revoir notre gouvernance, lutter véritablement contre la corruption, parce que on a beaucoup de ressources, tout le monde le dit. L'Afrique est un continent riche, mais on ne peut pas le se positionner avec comme des mendiants. Le Japon ne produit rien, n'a pas de matière première. Un pays frappé par les séismes en désordre. Mais regardez aujourd'hui, ce pays est dans les cinq, le top des cinq puissances mondiales. Comment ils font? C'est la prestation intellectuelle.
Oui, Ambrose.
Oui, je salue le développement que
Jean vient de faire.
A fait, parce qu'il a fait le tour, il a touché du doigt l'essentialité des enjeux. et que le Togo n'arrive jamais à saisir. C'est vrai qu'on dira que le Togo n'est pas le seul pays. Vous savez, quand vous prenez le taux de croissance du Togo, cette année 2025, on vous dira que c'est 6,2. Mais moi, je dis que c'est un taux ronflant. Et au-delà de ça, on a une dette colossale à payer, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. La dette qui avoisine les 70% du PIB. C'est-à-dire, nous risquons de tomber dans la récession si aucun effort n'est fait pour maîtriser notre économie. Au point que mes enfants, les enfants de mes enfants, viendront payer ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ils voyagent, ils voient les échangeurs, ils voient les TGV, ils voient beaucoup de réalisations, d'infrastructures, d'ouvrages. Mais pourquoi, bon Dieu, ils n'arrivent jamais à répliquer ça ici?
Mais on te parlera de la question de moyens.
Non! J'ai fait un exercice la dernière fois. L'ETF fait l'effort de mobiliser 1200 milliards. C'était à 350 milliards au temps de Gapéry. Ça fait pas longtemps. Si, je ne sais pas comment ça fonctionne en matière de comment ils le font. Et 1200 milliards, c'est pas le chocolat, hein. On met ça en deux, 500 milliards cette année. Il y a un budget qu'on a voté, 2000 quelque chose. Ça, c'est un budget, c'est estimatif. Et l'OTR à lui seul prend 1200 milliards. Il y a d'autres poches qui nourrissent les régies financières de l'État. Il y a plein d'autres. La CNPT, il y a plein de choses. Maintenant, quand on prend 500 milliards, on se dit qu'on va construire une bonne autoroute de Lomé à Saint-Cassé. Je parle d'autoroute. Et s'il y a quelque chose qui reste, on fait des échangeurs à GTA, on fait échangeurs à Simtogo, on fait échangeurs à Tikoumé. Je parle d'échangeurs, pas de ponts. Là, ce qu'on a aujourd'hui, c'est des ponts. C'est un pont. Et l'année prochaine, on coupe aussi 500 milliards. Et on dit on construit un chemin de fer de Lomé à Saint-Cassé. De Aplaou ici à Anero. L'autre année, on décide, on construit deux stades de haut niveau à Sokoné et à Kara. L'année qui va suivre, on replique un hôpital de référence publique comme CHU, CHO. C'est-à-dire que j'ai dit, est-ce qu'ils sont maudits? C'est-à-dire que quand vous, dans la vie, quand vous êtes, non, excusez-moi, quand vous êtes maudit, tout ce que vous touchez est maudit. C'est la conclusion que j'ai tirée. Je me dis non. 20 ans. Mais Talon a, ce que j'ai publié, Talon n'a pas fait 10 ans. Talon n'a pas fait 11 ans. On vous dira que comparaison n'est pas raison. Mais je suis touché. S'il a la volonté, ça c'est ce qui l'entoure, qui l'embrouille et qui fait que, où ça prime, il a des affaires. Il a des affaires comme, vraiment commerciales et économiques qui traitent et le Togo est laissé pour compte.
D'accord. Oui, docteur, c'est vrai que Jean, le grand Paul Rémy, le disait tout de suite, que l'Afrique est devenue en quelque sorte un gâteau que tout le monde se partage. Et finalement, est-ce que vous avez aussi la même impression? Parce que aujourd'hui, les puissances veulent rentrer en contact avec l'Afrique. Mais et on parle même d'ailleurs de l'Afrique comme étant le continent de l'avenir. Mais finalement, nous qui sommes sur le continent, finalement, c'est comme si nous ne voyons pas cet avenir.
Bon, on dit l'Afrique est le continent de l'avenir. On ne dit pas les Africains sont les hommes de l'avenir. Parce qu'ils ont besoin des ressources de nos sous-sols. Parce que l'Afrique, quand on dit, on fait des conférences et autres, l'Afrique ne va pas en négociation. Parce que tu vas en négociation lorsque tu apportes quelque chose que tu mets sur la table. Du moins, si l'Afrique a quelque chose à mettre sur la table, c'est la dette. Je crois que le journaliste a vraiment précisé cela. Nous sommes tellement endettés que même les efforts du fisc ne servent à rien. Quand tu fais, par exemple, en cette année, déjà en mars, le ratio dette puis les recettes fiscales, c'est à peu près 410%. Ça veut dire qu'on peut dire aujourd'hui que 4 générations sont déjà sacrifiées. Regardez cela. Et on parle de la dette publique. Cette année seule, le Togo est allé sur le marché de l'UMOA pour les obligations du trésor deux fois, en recherchant 10 milliards à chaque fois, à un taux de 6 quelques pourcents, mais les investisseurs ont renégocié à un taux plus supérieur. Ce qui veut dire que nous nous embourbons tous les jours. Mais quand nous nous embourbons tous les jours jusqu'à ce que ce que nous produisons au Togo n'atteint même pas plus du quart de quoi nous avons besoin. Regardez le budget national. j'en peux de 1200 quelques années jusqu'à 2400 quelque chose. Alors que les recettes, il n'y a pas de source de revenus. Sinon, saigner encore la population pour puiser le reste. Donc, nous avons tellement de problèmes. Et je suis certain que ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui gouvernent savent qu'ils sont finis. Ils sont finis. Ils ne peuvent plus rien. Parce que même si vous avez de l'engrais à mettre sur une plante, il faut que la plante soit en vie afin que l'engrais puisse travailler. Donc, quand tu mets l'engrais, tu donnes l'engrais à une plante déjà morte, ça ne produira rien. Donc, il est temps qu'on puisse revoir le Togo.
Parce que, docteur, vous, c'est vrai, c'est la nouvelle vision, c'est le nom de votre parti. Et qu'est-ce que vous proposez? Si vous dites que non, les dirigeants actuellement sont finis, qu'est-ce que vous vous proposez?
Déjà, quand on parle de la dette, il faut une renégociation de cette dette. Quand la dette est là et que le taux est élevé, cela voudrait dire que ceux qui sont là pour investir n'ont plus confiance à la gouvernance. C'est pourquoi ils négocient avec des taux élevés. Nous avons un taux comparable aux pays en guerre. Imagine. Donc, ce qui veut dire que ceux-là qui peuvent venir investir dans nos pays n'ont plus confiance en la gouvernance. Et c'est une gouvernance qui est là pour plusieurs années. Donc, cela signifie obligatoirement que nos responsables doivent comprendre que nous devons changer l'équipe qui dirige afin de redonner cette confiance en ces investisseurs pour remettre l'économie sur pied avant de commencer à parler de négociations avec les puissances. Sinon, nous ne partons pas pour aller négocier, nous partons pour aller plaider. Et on va continuer à demander jusqu'à combien d'années, alors que nous avons des ressources. Le seul port autonome de Lomé, c'est une ressource importante. Et vous allez voir, c'est sur ça que toutes les 10 ans négociations tournent. Mais ce n'est pas sérieux. Ils doivent comprendre que ils n'ont même plus besoin d'engrais parce qu'ils sont finis. Il faut que ça soit remplacé.
Et soit qu'il faut que ça soit remplacé, vous n'êtes pas le seul peut-être à le dire. Il y a aussi une dame qui l'a dit tout récemment, c'est bien Madame Marguerite Nyakadet. Et là, Michel, on va parler un peu lors de sa sortie, sa dernière sortie. Il y a le journal du Togo qui écrit « Marguerite Nyakadet, la discorde en attendant un retour en grâce ». Et autre journal, c'est Canal D. Canal D qui revient sur le sujet. Canal D écrit « Politique Marguerite Nyakadet, une opposition ouverte à Fort Nyasimbe ». Jean Le Grand Polérini, vous pensez que c'est une opposition aujourd'hui ouverte à Fort Nyasimbe en parlant alors de Dame Nyakadet?
Oui, Pascal. Dame Nyakadet a sorti une vidéo le week-end dernier dans laquelle elle a exposé sa vision de la gouvernance du pays. Pourquoi nous disons que c'est une opposition ouverte? Parce que depuis le mois de mai, à la veille de l'investiture du chef du désormais président du Conseil, l'entrée dans le nouveau système parlementaire, notamment la 5e République, elle avait sorti une tribune que plusieurs n'avaient pas pu authentifier. D'aucuns disaient que non, c'est un fake news et qu'il ne fallait pas prendre ça au sérieux. La dame a encore sorti plusieurs autres tribunes, mais que les gens n'ont pas vraiment calculé. Elle a vraiment calculé son timing. Et le week-end dernier, elle a sorti une vidéo, quand même pour prouver qu'en fait, c'était moi qui écrivais, même si vous doutiez, vous parlez de IA, tout ça. Voilà, j'affiche aujourd'hui ma position, et c'est dans cette dynamique que la dame est. C'est vrai que dans ses dires, elle n'a pas clairement dit quelque chose de nouveau, que les Togolais ne le savent pas déjà. Elle a continué pas à dénoncer la mauvaise gouvernance, selon elle. Et tout de go, quand même, elle a quand même eu le courage de dire, c'est vrai qu'on me taxe de faire partie de la famille présidentielle. Je reconnais que j'ai des enfants dans cette famille. Je reconnais que je fais partie d'une ethnie et j'ai travaillé à bâtir le système. Mais il n'en demeure pas moins, selon ses dires, qu'aujourd'hui, elle trouve qu'il y a des erreurs qu'il faut vraiment corriger. Il faut, selon elle, appeler à reconstruire le Togo. C'est vrai que c'est une sortie qui n'est pas différente des autres, parce que plusieurs également ont déjà appelé à la démission de l'actuel président du Conseil. C'est légion au niveau des partis politiques de l'opposition. Mais la particularité ici, c'est que c'est une dame qui a exercé la gouvernance également. Et c'est une dame qui a un fort ancrage dans la famille présidentielle. Et ça amène à réfléchir et à se demander qu'est-ce qui a pu arriver au point une dame de cette trempe, de cette influence, puisse aujourd'hui être frontalement opposée au président du Conseil.
Est-ce qu'on n'a pas pu avoir des couloirs pour discuter avec elle, pour l'amener à comprendre? Mais est-il dit qu'aujourd'hui, on se rend compte que la dame est véritablement décidée en découdre avec le président du conseil et elle en appelle à ce que beaucoup de Togolais se joignent à elle pour reconstruire le Togo, dit-elle. Et on se demande, est-ce que véritablement l'aventure va porter des fruits ou est-ce que ce sera un épiphénomène qui va après s'estomper et que la paix va revenir voilà, dans la famille? Parce que vous vous rappelez qu'en 2012, l'ancien ministre Pascal Bojuna avait tempêté Orbité Orbi, mais après, il est retourné à la maison. Et aujourd'hui...
D'accord, vous pensez que ce serait le cas également?
Non, c'est Madame Yakade. Actuellement, vous savez, l'homme est changeant, mais malin celui qui peut prédire d'ici quelques années ce qui va se produire. Mais un fait notable qu'on peut relever, c'est qu'elle est l'une des personnes depuis 2010 à aujourd'hui, elle est l'une des personnes du Sérail qui ouvertement affronte le système. Il faut reconnaître que Pascal Bojuna n'avait pas pu le faire. Mais également, d'autres personnes disent qu'avoir une femme aujourd'hui qui puisse prendre le courage de parler, c'est dit que le chef de l'État, désormais président du Conseil, a fait un travail remarquable en faisant de la promotion de la femme quelque chose aujourd'hui qu'on peut montrer au monde. On a tellement demandé que les femmes puissent s'affirmer et aujourd'hui, voilà une femme, c'est bien vrai qu'elle n'est pas d'accord avec lui, mais elle a le courage d'afficher publiquement ses opinions et de dire ce qu'elle pense.
D'accord. Oui, Magloire, c'est vrai que vous publiez un éditorial, l'éditorial que vous avez titré « Quand la femme se fâche ». Et déjà, je lis, déjà, quand vous écrivez « Quand la femme se fâche », selon l'artiste chanteur Hilarion Nguema, figure tutélaire de la musique gabonaise, le secret est dehors. Il n'y a plus de promesses. Il n'y a plus de confiance. Est-ce que c'est ce qui se passe?
Ben, on est tenté de le dire. Parce que comme tous les citoyens togolais le voient, c'est quand même un fait rare, il faut l'avouer. Tout le monde connaît la dame, on connaît son parcours, ne peut pas être directrice de la BTCI qui veut. Elle a fait tout ce parcours professionnel, elle a été également membre du gouvernement et pas n'importe quel ministère elle a occupé. Le ministère de la Défense. Donc ministère des Armées, autant pour moi. Donc vous comprenez à peu près l'estime et la confiance qu'il devrait y avoir entre elle et le chef de l'État d'hier, qui est aujourd'hui le président du Conseil. Mais quand du jour au lendemain, Madame Yakade tourne le dos au système, on peut se poser des questions. C'est ça d'ailleurs qui a amené les gens au premier abord, parce que quand elle a sorti son premier brûlot, c'était juste mis Madame Yakade, ancien ministre des armées. Et beaucoup ont douté, on a vu des choses circuler comme quoi ben c'était du fake news. Et après, elle est venue à poser sa signature sur sa deuxième sortie. Après, a suivi la troisième sortie, c'était la quatrième. La quatrième, on l'a vu clairement.
Ah, allez-y.
Voilà, la dernière, on l'a vu clairement en vidéo. Peut-être c'est pour dire que mais vous qui ne croyez pas hier que c'était moi, mais je vous le dis que c'est moi. Alors aujourd'hui, quand vous prenez tout ce qu'elle dit, Jean l'a dit, en réalité elle ne dit pas grand-chose que les Togolais ne connaissent pas. Mais quand, à chacune de ses sorties, elle dit d'abord que le système est sclérosé, pour ne pas dire ménopausé, et interpelle le chef de l'État à quitter les affaires pour une transition apaisée. Et plus loin, elle interpelle les forces de défense et de sécurité à prendre leurs responsabilités. Je crois que c'est des choses fortes. Mine de rien, si c'est un politicien qui l'aurait fait, on l'aurait déjà pris. Hein. On est au Togo depuis un moment. Si c'est un acteur politique, surtout de l'opposition, qui fait cette sortie, interpelle les forces de défense de sécurité à agir, mais je crois qu'on l'aurait déjà pris. Mais on se demande, mais pourquoi Madame Yakade, elle est à sa cinquième, quatrième ou cinquième sortie, toujours interpellant les FDS, mais personne ne réagit. L'autre fois, j'ai vu quand le ministre Bawara était sur les plateaux de New World, et quand on lui a posé la question sur les sorties répétitives de madame Niakadé. Vous avez vu sa posture. Il était embarrassé, il était un peu gêné, complexé. Son développement, on le sait, il déroule très bien. Mais quand on a abordé le sujet, madame Niakadé, bon, il s'essayait un peu. Mais c'est dire en fait que peut-être tout le monde sait ce que la dame essayait de faire. Ou ce qui l'amène à sortir, à faire cette déclaration. Peut-être que les gens du Sérail le savent. Mais comme nous l'avons écrit dans notre éditorial, et Jean, je crois que peut-être c'est passé chez lui, aujourd'hui on peut s'estimer heureux que la politique du genre enclenchée au Togo fait son chemin. On peut se réjouir parce qu'aujourd'hui, Mme Niakadé nous prouve que ben, on peut être femme, on peut faire partie du système, mais à un moment donné, quand on ne voit plus dans la même direction que le système, on peut sortir de sa carrière, se dévoiler publiquement et mener sa politique. Je crois que c'est ce qu'elle fait. On se demande quelle va être la prochaine étape, parce que on l'a dit, de papier, de brûlot, aujourd'hui c'est un discours télévisé, enfin bref, vidéo. Quelle va être la prochaine étape?
D'accord, on attend voir. Michel, où est-ce que vous vous êtes surpris par rapport à ces sorties de Mme Niakadé?
Surpris? Mais pourquoi?
Parce qu'on connaissait justement sa position. Oh. Même membre du gouvernement, de l'ancien gouvernement, et aujourd'hui, qui critique alors le gouvernement actuel, ou du moins, qui critique le président du conseil, la gouvernance.
Vous savez, avant de me prononcer sur peut-être les écrits et la vidéo, c'est que nous devons comprendre. Je le disais depuis des années sur ce plateau. J'ai dit que ça dit que sa sortie me conforte dans ce que je pense. Je dis
souvent, que vous pensez, oui.
Oui, pour être opposant, on ne passe pas un concours. Il n'y a aucun concours. Sinon, il y a des opposants. Attends, ils allaient jouer. On ne passe aucun concours. Vous dormez la nuit. Vous voyez que non, la manière dont vous avez vu hier, là, ça ne va pas. Et bon, vous dites que non, vous n'êtes pas d'accord. Et c'est ça.
C'est parti.
On ne passe aucun concours. Vous voyez? D'abord, la dame, elle est de la famille. Avant même d'être du système. Et elle a claqué les deux portes. Moi, je n'ai pas grand-chose à me prononcer par rapport à... Je pense que Mabat disait quelque chose. J'ai suivi aussi le ministre Barak sur New World. Il était un peu gêné par rapport à la question. Il a dit des choses. Bon, je me suis posé beaucoup de questions par après. Mais ce que je dis aujourd'hui, c'est que cette dame, elle a commencé petitement. Elle va en galon. Et on ne sait pas ce qui va se passer demain avec elle. Les gens, ce qu'elle a dit, par exemple, la dernière fois, il y a certains opposants qui l'ont dit. En tout cas, c'est des anciens dans le monde opposant qui ont déclaré. Mais on a vu là où ils sont aujourd'hui. Mais nous allons voir. Parce que c'est pourquoi aujourd'hui, c'est un peu... sans que vous dise concrètement ce qu'elle a envie de faire, vous allez peut-être vous tromper sur l'analyse. Mais globalement, c'est que elle s'oppose au système, et comme elle est de la famille et du système, et je pense que ce qu'elle dit, les gens écoutent. Les gens l'ont suivi le dimanche dernier, et bon, nous on est très loin, hein. Mais ceux qui écoutent, tu vois là, qui sont dans le sérail, dans les sérails, tout ça là. Donc, c'est à eux d'analyser, de voir si elle est en train de blaguer les Togolais pour que demain, qu'elle rejoigne la maison, où elle est sincère et déterminée. Nous ne pouvons pas charlater. C'est au fur et à mesure, puisqu'elle avait commencé petitement, et elle continue. Maintenant, on sent que maintenant, elle est vraiment dans les airs. Maintenant, on va voir. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours, dans les mois à venir? Nous allons voir.
D'accord. Il ne faut pas qu'elle tombe dans les essais quand même. Oui, Ambrose, vous titrez sur le sujet. Togo, Marguerite Niakadé appelle à une transition politique et à la reconstruction nationale. Mais ce n'est pas du nouveau quand même.
Oui, j'adhère à ce que Michel a dit. Michel a dit qu'elle est en train d'aller en crescendo, c'est-à-dire prendre les escaliers et marche par marche. Et vous allez voir que le ton est en train de monter, effectivement. Quand on demande à l'armée de rejoindre le peuple, ce n'est pas des phrases que tout le monde peut faire dans ce pays, tout au moins, pour un jour. Un journal qui écrit ça à la une. Et messieurs les membres, les officiers de l'armée, rejoignez le peuple. Ça, c'est entre griffes, c'est... Tu comprends? Il faut avoir le culte du gardien.
Il faut expliquer.
Pour pouvoir le faire. Mais, Yakadé l'a fait. Elle dit, elle demande au peuple de rejoindre l'armée, de rejoindre le peuple. Ce n'est pas, tout le monde ne dira pas ça. D'accord. C'est pourquoi je rejoins entièrement ce que Michel a dit. Parce que par le passé, elle a dit des choses, et en cajolant, maintenant, ce n'est plus. Elle a pris les airs, comme Michel a dit. Et je me dis, elle a dit aussi autre chose. Elle dit que, au-delà d'appartenir à une communauté, d'être membre d'une famille qu'on connaît, elle est citoyenne togolaise. Elle est plus de vérité et de justice. C'est sur ce plan-là que nous, on la rejoint. Parce que nous, on le fait depuis plus de 20 ans. Et donc, bienvenue à la maison de la contestation, de la dénonciation et de l'opposition. Pour dire qu'en réalité, moi, je prends le volet armé. Le message qu'elle envoie à l'armée, tout dépend de celui qui se retrouve dans l'armée et qui écoute ça. Si on nous parle de désertion de certains militaires, par exemple, on parle de 500, Dieu seul sait si c'est 1000 ou 2000 ou 3000. 500 là, quand on écrit.
C'est
eux-mêmes qui écrit 500 là. Moi, j'ai évalué ça à peu près à 5000 ou quelque chose, à 3000. Puis entre nous, on peut se connaître. Parce que dire dans un communiqué officiel que 500 personnes désertées, mon frère, c'est pas facile de le dire. Mais ils ont la meilleure eu le courage de le dire. Et maintenant, le volet Bahara. Bahara, chez nous, on dit Dja. C'est-à-dire que Bahara est gêné. Il a dit. Bahara est gêné tout simplement parce que ça qui parle n'est pas n'importe qui. Et ça, Magua a résolu cette question-là. Même le titre de sa une même a résolu ça. Tu as dit, femme ou quoi?
Quand la femme se fâche.
Quand la femme se fâche, bon. Si c'est Margaret Nakadé dont on parle, Margaret Nakadé est femme de qui? Ça y est, l'interrogation là, peut-être ça peut rester à l'air.
Bizarrement, personne ne veut te répondre. C'est ce que j'ai constaté.
Et donc, si c'est. Ça y est, que lui là, il a osé. Femme, se fâche. Le mari dont on parle, est-ce qu'il peut dire quelque chose? Parce que quand sa femme, quand ça se fâche là, c'est tout qui sort. Hein.
D'accord.
Mais si elle-même, supposons qu'on prend Nakadé comme on a pris et Katanga, tout ça là. Mais, en vrai, les couleuvres, les nageurs. Tout ça là va sortir. Donc celui qui va me prendre là, et peut-être il a peur. On me dit que il peut le prendre à tout moment. Mais ça va laisser des séquelles.
D'accord. Ok, merci.
Donc attendons à la prochaine, au prochain escalier.
D'accord. Oui, docteur, oui. Est-ce que vous êtes surpris alors de cette réaction alors de Madame Nakadé? C'est vrai que elle dit des choses, peut-être que beaucoup d'opposants disent déjà. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce qu'elle dit?
Ah bon, d'abord, je félicite l'analyse que font les journalistes ici par rapport à cette sortie qui démontre en fait la profondeur hein, des tests, des réactions de nos journalistes togolais. Donc, félicitations à la presse togolaise une fois encore. Chez nous, à la Nouvelle Vision, nous n'allons pas dire que nous sommes surpris parce qu'il y a eu des gens... Feu Agbeyome était là, après il est devenu opposant. Il y a des gens qui étaient avec le pouvoir et sont devenus opposants. Mais je vais remettre l'analyse sur le plan analytique de la Nouvelle Vision. On s'oppose au Togo pour plusieurs raisons. Une fois quand moi j'étais rentré, la Nouvelle Vision est rentrée dans la lignée de l'opposition, j'ai tout au moins identifié quatre courants de l'opposition. Il y a le courant des gens qui sont déçus par quelque chose. Il y a le courant des gens qui sont anciens et qui veulent aussi leur part du gâteau. Il y a aussi le courant des gens qui doivent demeurer opposants et être payés. Et il y a le courant des gens qui sont opposants parce qu'ils veulent voir le Togo évoluer. En résumant seulement à ces quatre postes,
sans avoir le résultat, on ne peut pas marginaliser l'action de quiconque. Donc on ne peut pas classer l'action de Mme Nyakade en tant qu'opposant de tel ou tel bord. Néanmoins, notre souhait, c'est de voir des gens engagés pour le bien de ce peuple. Parce que si c'est une opposition qui s'aligne du fait qu'elle a été déçue, ou bien qu'elle a été forcée à démissionner, ou bien qu'elle a eu des internes sur lesquels elle n'était pas d'accord, et aujourd'hui elle devient opposant, donc elle devient opposant pour elle-même, pas opposant pour le peuple. Mais nous, on a besoin de ceux qui s'opposent pour le peuple. Et quand tu t'opposes pour le peuple, tu es là pour rechercher les voies et moyens pour que le Togo puisse reprendre les rails de son économie, pour que le Togo puisse reconstruire sa classe moyenne, pour que le Togo puisse arriver à réduire la dette publique et la dette extérieure, pour que le Togo puisse créer un cadre d'investissement juteux à toute la diaspora et vivre en toute aisance sur son territoire. Parce que si cette opposition que nous voulons avoir est orientée à l'opposition de quelqu'un qui est déçu, alors là, nous avons un déjà-vu qui s'amène sur le terrain. Mais si cette sincérité provient du fait qu'elle a fait une expérience en étant dans, d'abord, de la famille, ça c'est... elle ne l'a pas contrôlé. Et secondo,
c'est une évidence.
En étant dans le système, et maintenant, elle veut apporter ses critiques pour faire évoluer le Togo et non contre quelqu'un, alors on peut l'applaudir. Donc pour le moment, comme l'a dit Monsieur Michel, c'est en l'air. Mais nous, en tant qu'opposants, on ne peut qu'apprécier même tout changement marginal qui vient pour le moment, tant que personne n'a le bâton magique pour dire voilà la seule solution que nous avons. Mais ce qui est aussi très bien, c'est que quand vous revoyez un peu la proposition de la nouvelle vision en 4 points et ce que certains éléments de ce que propose Madame Nyakade, on voit que nous avons des points communs. Néanmoins, nous implorons cette opposition que ça soit constructive pour le Togo.
Docteur, je voudrais que vous reveniez sur ces recommandations, puisque vous avez fait une proposition pour une sortie de crise par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et sur le plan sociopolitique, bien sûr, du pays. Et revenez-nous un peu sur alors cette proposition.
Bon, pour résumer, nous avons analysé et nous avons constaté que il y a un manque de confiance dans la gouvernance. Aujourd'hui, déjà, les faits sont là. Quand on dit, par exemple, 500 déserteurs, c'est un signe. Et quand on voit une ancienne ministre désarmée, venir publiquement s'opposer, et c'est aussi un signe. Donc, ces facteurs nous prouvent déjà qu'il y a un manque de confiance, même au sein de la gouvernance. Mais si ça s'avère vrai, cela voudrait dire qu'à n'importe quel moment, on peut assister à n'importe quoi. Mais nous avons toujours prôné à un changement planifié, à une transition planifiée. Parce que la transition planifiée permet de réduire les dégâts. Mais ce changement planifié pour nous était l'option d'avoir un gouvernement de transition qui permettra, durant 6 mois, aux acteurs, à ceux qui aiment le Togo, de s'asseoir à table, de réfléchir à la nouvelle nomenclature des choses, aux feuilles de route que doivent suivre les Togolais et remettre en place une constitution impliquant toute la nation togolaise. Mais le second choix, c'est de continuer dans le néant et s'attendre à un chaos à n'importe quel moment. Et pour nous, le chaos à n'importe quel moment n'est pas avantageux si on veut réellement voir le Togo évoluer. Donc, arriver à une assise nationale, arriver à une transition où on peut s'asseoir, se parler, se dire des choses, voir les problèmes fondamentaux qui handicapent le développement du pays et apporter des soutiens, c'est ce que nous souhaitons.
D'accord.
C'est ce
que merci beaucoup, docteur Kodovi Obenton, pour ces propositions. Et merci d'être là aussi pour nous expliquer un certain nombre de choses. Et nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs, puisque notre temps est avancé. Nous allons leur donner la parole. Docteur, c'est vrai que le principe de notre émission, c'est qu'on donne la parole aussi à vos concitoyens qui nous écoutent pour qu'ils se prononcent. C'est aussi le jeu de la démocratie, n'est-ce pas?
Il le faut. C'est ce que nous aimons le plus.
On va leur donner la parole sur le 90 86 35 35 91 36 63 75 ou également ils peuvent nous écrire sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5 Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75 pour se prononcer sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. Premier auditeur en ligne, allô?
Oui, Pascal, bonjour.
Bonjour, Évangéliste Senghor, j'espère que vous allez bien.
Comment vous allez?
Ça va pas la grâce, et chez vous?
Je salue tout le plateau. Bon, les motocyclistes sont là. Je voudrais qu'ils comprennent qu'on ne meurt pas aujourd'hui registré après 2 ans ou 3 ans. Quand tu pars, c'est fini. Bon, je reviens maintenant pour la sortie de ma danseur Nyakade. Vous savez, mais je vous dis, quand un régime a sa déclinte, a sa fin, c'est comme ça. Parce que ma Bible fait savoir, Dieu dit, hein, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. J'ai fait une semaine à l'hôpital. Je vous dis, je suis en train de vous parler au CHU Toko ici. Mes frères, aller à la morgue, c'est mieux d'aller à l'hôpital. Je vous ai encore réitéré.
Comment ça?
Voilà. Aller à la morgue là. La personne est déjà morte. C'est le lever du corps. Mais à l'hôpital, mes frères, ce n'est pas du tout bien. C'est la méchanceté à Rodos. Gouverner un pays pendant 60 ans. L'hôpital national du pays. Mais ça ne va pas. Vous savez, mon frère Paul Nefindé, bon, c'est vrai, aujourd'hui, il a la volonté de travailler. Mais ces zélés qui sont autour, aujourd'hui, tout ce qui se passe là, sont alentour. Tous ceux qui sont zélés, ce sont ceux qui l'ont mis dans ce problème. À cause de leur quoi? De leur vente. À cause de leur intérêt. Les gens voient la vérité comme ça. Ils contournent. Mais Madame Nyakade, Dieu est à son côté. Et pourquoi? Je suis encore dans le gouvernement. Bon, il travaille, mais il sait que ça ne va pas. Mais est-ce donc la vérité? Moi, je suis Kabier. Allez chez nous, la Kara, vous allez voir. Allez chez nous, dans tous les cantons, vous allez voir. La misère à Rodos. Quand on parle de la position, il n'y a pas la position à nommer. Hein? C'est chez moi ou non? Les étudiants. Contre combien? 2 000 francs. Mais c'est normal.
D'accord. Merci beaucoup, Évangéliste Senghor. Autre auditeur. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
C'est Monsieur Nyamavo.
C'est Nyamavo.
Allez-y.
Oui, je salue mon frère qui vient de passer. La morgue est présentable plus que l'hôpital. Bon, je reviens à la sortie de notre soeur Nyakade. C'est un courage. Parce qu'il n'est pas donné à tous ceux qui ont travaillé avec ce régime-là de dire que ça ne va pas. Peut-être qu'elle a voulu que les choses aillent mieux quand elle était au gouvernement. Mais on a dit que, peut-être on leur a dit que, ma soeur, si tu veux faire ça ici-là, on ne veut pas que les Togolais vivent mieux, donc tu peux nous quitter. Mais elle, sa conscience la gêne, elle n'est pas tranquille. Elle avance petit à petit pour sortir le Togo de l'ornière. Vous voyez, c'est tout comme la France-Afrique. Les démarcheurs là, qui ont trompé les présidents français africains, hein, comme quoi c'est une bonne compagnie. Aujourd'hui, on sent que la France-Afrique n'a même pas profité à la France. Ça n'a même pas profité à l'Afrique. Le président Macron était au Cameroun. Il a dit que les présidents africains sont des hypocrites. Il était au Burkina. Les étudiants ont posé la question, pourquoi l'Afrique ne marche pas? Il dit qu'il n'est pas leur dirigeant. Au moins, il faut qu'on comprenne ça, ce style-là. C'est-à-dire que Ce n'est pas la France-Afrique qui a problème. Ce sont nos dirigeants. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, on nous dit que la paix, cohésion nationale, on a rejeté Amron. On dit qu'il est fou parce qu'il est carrière. La dernière fois, vous avez faim, bon, ou bien vous allez manger. Ah, du coup, ça fait froc. C'est les débats là 2025. Ça a montré que le Noir même est fatigué. C'est comme la France-Afrique a trompé les gens. Les gens qui disent que si on vote l'homme du Sud, ils vont souffrir là. Ils ont vu qu'on les trompait. Donc maintenant, Madame Nakade dit ça suffit.
Merci. Mais merci, Monsieur Nyamavo. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô?
Allô, bonjour, Monsieur Pascal.
Oui, bonjour, comment vous allez?
C'est Fatima.
Oui, Natema.
Ouais.
Allez-y.
Je vous tire le chapeau tous là-bas.
Merci.
Salut vous tous. Vous avez fait un très bon développement. Que la cœur de nos aïeux vous bénisse. Vous savez, quand on vole le pouvoir par la force, on ne fait rien. Chaque fois, moi, je le dis. Quand tu parles par la force là, tu voles là, le voleur ne peut rien faire. Non. C'est ça le tout. Je vous dis la vérité. Le voleur, là, il ne peut rien faire. Maintenant, vous voyez, le voleur, quand il a pris par la force, il met le moyen, ce que le militaire utilise pour sa garde, c'est 20 milliards. Peut-être même 1 milliard maintenant pour garder, pour qu'il puisse garder son côté. Vous savez, la dame, elle est de la maison, elle a tout dit. Elle, depuis le mois de décembre, il faut que quelqu'un soit du côté du pays. Le premier ministre, il est du peuple. Vous avez vu comment on a sauté du pouvoir. Vous avez vu, il y a l'accepté. Ça veut dire que vous ne pouvez pas, il faut possible. Donc, quand on a dit, madame, tu ne peux pas dire, il y a des mois. L'argent, on peut payer 2 mois. Il y a des mois, c'est sur la table.
Merci beaucoup, Natema. Et on a un peu du mal à vous écouter. 90, 86, 35, 35. Allô? Oui, Basile, bonjour. Comment vous allez? Oui, il semble que votre radio à côté de vous fait un peu de bruit. Si vous pouvez diminuer son volume, ce serait intéressant. Et Basile?
Je pense que ça va.
Oui, ça va mieux, allez-y.
Oui. Je salue tout le monde avec un débat très brillant. Nous, on a eu la chance d'être nés depuis. Ce qui a fait qu'on a pu suivre depuis 67, comment est-ce qu'on est gouverné jusqu'en 2025. Ce truc de Yokohama dont vous parlez tout à l'heure, on a toujours vu ça depuis 1967, jusqu'à présent. Et ça m'amène maintenant à dire que ou bien si on savait, on ne devait pas prendre part à ce genre de choses. Comme ça, le Togo serait dans une situation autre que ce que nous avons actuellement. Et personne ne dira le contraire. Ce voyage, ça ne vaut absolument rien pour un Togolais. Vous tous, vous le savez. Ça ne vaut absolument rien. Rien du tout. C'est ça même nous a fait comme ça. Et puis, les motocyclistes et consorts, vous voyez que sur la route même, c'est le désordre. Les voitures sont là où les motocyclistes vont rester. Les motocyclistes sont là où les voitures vont. Bon, c'est-à-dire, c'est un désordre dans ce pays. Donc, c'est ce que vous devez savoir.
D'accord.
Pourquoi est-ce qu'on doit en arriver là? C'est là-bas la grande question.
D'accord, merci beaucoup Basile. Bonjour Pascal, le Togo a un grand problème de gouvernance, le TMPCM, président du Conseil des ministres. Voilà, le gouvernement n'est toujours pas formé, ce président du Conseil est juste à l'heure de fête, et puisqu'il n'y a ni gouvernement ni des ministres qu'il faut présider. C'est Dalmeda qui nous écrit. Allô? Allô, bonjour.
Allô.
Oui, bonjour, madame ici.
Oui, bonjour. On est encore dessus ce matin. On passe notre vie au lieu d'aller travailler pour notre bien-être. Bon, vous êtes, c'est-à-dire on est sans gouvernement, mais c'est l'habitude, depuis qu'ils sont là, le régime est là, ils font ce qu'ils veulent. Ils nous gouvernent comme leur boutique, leur épicerie. Et puis, ça n'offuse pas les Togolais. Ils disent, voilà quoi. Et voilà. Maintenant, le président est encore parti au Japon. Il nous laisse dans la merde. Il va se guérir, au Japon. Je veux dire aussi, faire une parenthèse pour dire aux Africains que le petit Japon, là, avait colonisé la grande Chine. Et la Chine ne s'est jamais plainte. Et elle a travaillé pour être la puissance aujourd'hui. Que les Africains n'ont qu'à arrêter d'insulter la France et de bosser pour émerger, quoi. Bon, ça, c'est la parenthèse. Moi, je veux savoir, est-ce que le président va encore revenir au Togo? Parce que je ne sais pas. Il voyage, il nous snob, il ne nous dit jamais rien. Et puis ça provoque crise sur crise. Et ça surfe dessus pour rester là et tout, à nous fatiguer. Je sais pas. Jamais d'état de la nation. Et tout le reste, on est dans la précarité, on est mal. Et puis voilà quoi.
D'accord. Hein? Merci madame. Ici, nous allons recevoir notre dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission. Allô? Allô, bonjour. Allô?
Oui, allô, Pascal.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Oui, c'est Florent depuis Adidogomé.
Florent?
Oui.
Depuis Adidogomé. Allez-y, Florent.
Oui, je salue le plateau.
Le plateau aussi vous salue.
Oui, je dis, hein. Pourquoi le président et sa famille, la terre qu'ils ont vu d'être, ne veut jamais faire du bien à cette terre? Parce que, nous savons que le Sénégal est arrivé au pouvoir il y a 20 ans. Et il travaille avec une équipe qui ne change jamais la situation des Togolais. Cette semaine, nous avons appris qu'au Mali, le premier ministre a été arrêté parce qu'il a détourné de l'argent. Pourquoi on n'a pas 16 arrestations au Togo? Merci beaucoup et bonne émission.
Merci Florent pour ces questions. Je pense quand même que il y a personne indiqué quand même ici pour répondre à vos questions. Mais je lis cette réaction de cet auditeur. Bonjour Canal FM, je me prénomme Amérodes. Et merci pour le débat d'aujourd'hui très constructif par rapport à la sortie de madame la ministre. Et disons seulement que chaque chose en son temps, Dieu est l'alpha et oméga et tout ce qui a un début forcément à une fin, mais à quand c'est dans la main alors du Seigneur, eux tous en sont conscients, il est temps dans un sursaut d'orgueil de changer les choses pour un bien-être du peuple togolais. Merci et bonne journée. Nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table, mais Jean Polorini, je préfère quand même que vous preniez d'abord la parole, puisque je suis très intéressé par ce titre que vous avez écrit. Vous écrivez Togo harcèlement sexuel dans les administrations, c'est pourri. C'est bien ça.
Oui, c'est effectivement pourri. Parce que en début de semaine, on a appris qu'un haut dignitaire de la République, notamment secrétaire général du ministère de l'Action sociale et de la promotion de la femme, a été jeté à la prison civile de Lomé. Et pour quelles raisons? Pour viol. Viol commis dans son bureau. Et selon les informations, il avait l'habitude de faire défiler ses employés, voilà, dans son bureau, il est passé. J'espère que vous comprenez quand même.
On aurait cru à un homme qui a fait tellement.
Oui,
la toile ces derniers temps.
Voilà, bon, pour certains, c'est le nouveau Balthazar du Togo. Et ma foi, c'est quelque chose qui nous a révolté et qui a vraiment dérangé beaucoup, notamment les féministes, de savoir que un secrétaire général d'un ministère qui est censé protéger la femme lui-même s'adonne à ces pratiques innommables. C'est-à-dire, vous couchez avec vos employés régulièrement, et c'est parce qu'une a eu le courage de le dénoncer qu'aujourd'hui le pot aux roses a été découvert. Il faut ici saluer cette dame-là qui a eu le courage. Parce que souvent, ces choses se pratiquent dans plusieurs administrations, il faut le dire. Parce que lui, on l'a découvert. Mais ce n'est pas exclu que ça se produise ailleurs. Et même dans le privilège comme les mairies là. Je vous dis que si on ouvre les yeux,
les conseils là,
on va découvrir des choses innommables. Et aujourd'hui, avec le courage indien que cette dame a eu, je crois qu'il faut que toutes les femmes qui ont été victimes se lèvent et brisent le silence.
D'accord.
Parce qu'il faut que des gens tombent pour vraiment que cette pratique s'arrête. Et les gens se demandent, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Que ce ne soit pas juste un effet d'annonce et que la personne ne soit pas condamnée après pour qu'on dise qu'il est le petit frère de qui a vu qui et on a éteint l'affaire.
D'accord. Ok. Et Michel?
justement, le gouvernement vient de lancer un projet vacances
actives.
Oui,
pour les étudiants.
Dans les étudiants, dans les vacances des étudiants dans les entreprises.
Vacances utiles.
Mais vacances utiles. Mais si c'est comme ça, là, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va voir ce que les gens vont faire à ces jeunes filles-là qui seront peut-être envoyées dans les entreprises? Donc il faut d'ores déjà écarquiller les yeux pour voir qui fait quoi, qui ne fait pas quoi. Parce que les jeunes filles sont à protéger. Surtout qu'actuellement, on fait la promotion de la gente féminine. Il faut protéger ces filles-là. Et puis, ces vacances utiles dans les entreprises-là, c'est bien. Mais moi, je pense que fondamentalement, ce n'est pas peut-être c'est une contribution, ce n'est pas la seule chose dont les étudiants ont besoin. Ils ont besoin aussi, sur le plan gouvernance, que bientôt le gouvernement va sortir, qu'il y ait des ministres de 25 ans. Parce que quelqu'un a été ministre, premier ministre à 29 ans. Le ciel n'est pas tombé dans ce pays-là. Mais alors, qu'on voit des gens, on a l'impression qu'on veut nous dire que c'est à 10 ans qu'on commence la jeunesse. Comment ça? Des gens, pendant, les gens sont là depuis 60 ans, ils sont aux affaires. Mais non, il faut quand même ouvrir à ces jeunes-là. Il faut s'ouvrir, donner l'espoir à ces jeunes-là que, ah, comme ça se passe comme ça, là, ça veut dire que notre tour va arriver un jour. D'accord. Mais quand on ferme tout, et que bon, c'est dans les ANVT, et dans les ANVT où les jeunes vont, dans une entreprise ou dans un service, il est ANVT, il fait 5 ans, il part, le DG à la retraite, il est là. Dans la tête de ce jeune-là, qu'est-ce que, mais quand même, il faut s'ouvrir aux jeunes.
D'accord.
Merci. On ne peut pas dire que ça sont 10 ans, qu'on doit vraiment, on doit faire confiance aux jeunes. Non.
D'accord.
Ça, c'est entre autres raisons qui font que les jeunes sont d'une manière ou d'une autre révoltés.
D'accord. Merci. Voilà. Merci, Michel. Oui, Magola.
Non, mais en tant que jeune, je suis très révolté par ce qui se passe parce que en réalité, comme Michel l'a dit, c'est que c'est le problème qu'on voit. On ne voit pas ce qui a amené à ça. Et la réalité, c'est qu'on a confisqué les postes dans l'administration publique au Togo. C'est-à-dire que quand vous êtes un jeune et que vous avez la chance d'avoir du boulot, c'est que ben, vous êtes un extraterrestre. Chez nous ici, c'est comme la jeunesse, c'est un délit. Et pour nous, c'est l'entrepreneuriat des jeunes, on nous dit. Quand tu es jeune, on te dit que c'est stage, toi tu vas faire. Là, on initie encore des trucs, on va faire voyager nos soeurs dans les entreprises. Et l'histoire de Balthazar va encore revenir. Et c'est clair. Parce que ce monsieur-là, qui est secrétaire général de quel ministère? Ministère en charge de la promotion de la femme. Qui prennent les femmes comme des proies. Non, mais en réalité, ce n'est que le reflet, en réalité, de ce qui se fait en sourdine ou se joue en sourdine. Je crois que ça doit être le déclic. Parce que je me rappelle, il y a 5 ans au moins, le journal Flambeau des démocrates avait sorti un dossier pareil pour un centre administratif de renom au Togo, où je vous assure ce qui se passe là-bas, harcèlement sexuel et tout, des femmes mariées à la maison qui ont des congés au boulot et tout. Franchement, le problème, il est sérieux. D'accord. Je crois que ce monsieur, on ne l'a pas souhaité, mais il a bien fait de se montrer comme un bouc émissaire. Et quand on va poursuivre le dossier, vous allez voir que la plaie est vraiment bien.
Merci, Magola. Oui,
Ambroise. Moi, je crois qu'il faut, des numéros verts dans les... dans l'administration.
Même ça peut être des numéros rouges. Ça peut être des numéros rouges
dans l'administration, dans les collectivités territoriales. Je parle des communes. Parce qu'on parle des secrétaires généraux, on parle des ministres. Il y a aussi des conseillers municipaux. Parce qu'ils sont là, comme ils n'ont pas trouvé boulot, ils profitent en même temps.
Dans les mairies, vous voulez dire.
Oui, oui. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on ne peut pas étaler ici. Vous savez, l'homme est né comme ça. C'est la nature faible de l'homme. On ne peut pas refuser ça. Il y a aussi des femmes qui eux-mêmes poussent l'homme à agir. Vous savez, ce dont j'ai peur, c'est les jeunes filles qui vont arriver là, les étudiantes là. Il y en a même qui vont, pensant qu'on va les promouvoir, elles vont se laisser faire. Ça aussi, j'envoie ce message aux filles. Ton heure où ce n'est pas le lieu de mariage, là où on t'a dit d'aller faire stage là. Et il ne faut pas céder à des choses. Un numéro vert suffirait pour dénoncer, juste pour qu'on déclenche une enquête dans une administration, dans un ministère ou dans une commune.
D'accord.
Il faut que... Parce que si si le ministère des Affaires sociales ne prend pas ce dossier au sérieux, ou le ministère de la Sécurité, ça veut dire une histoire d'État.
D'accord, ok, merci. oui, docteur.
Oui, moi je replace le problème ou les débats sur le plan politico-social. J'ai constaté qu'au Togo, la plupart des postes sont politisés. Et pourquoi politisés? Parce que ce sont des voix qui doivent renouveler les mandats. Donc, ce n'est pas basé sur des compétences. Donc, pour avoir un poste, il faut avoir quelqu'un. Et ce quelqu'un, il doit être du système. Et c'est là, bon, c'est très déplorable qu'à un moment donné, j'ai des gens qui sont une tête de liste, hein, qui est venu me dire que il ne peut pas voter Nouvelle Vision parce que ne soyons pas sûr de la victoire, il peut perdre son poste alors qu'il est tête de liste quelque part. Ce qui veut dire qu'il a tellement peur de perdre le poste que même dans la compétition politique, il ne peut pas voter pour lui-même. Vous voyez, donc tout est tellement politisé que les gens veulent passer par d'autres voies marchandes pour avoir des postes. Mais c'est très, très, très risqué. Et il faut que ça change vraiment.
D'accord, il faut que ça change vraiment. Merci beaucoup, docteur Kodzovio Benton, président du parti Nouvelle Vision, d'être passé alors dans cette émission. Ça fait plaisir de vous avoir dans cette émission. Et merci à Jean Legrand Paul Rény d'être passé aussi dans cette émission. Jean Legrand, vous êtes alors le directeur de publication du journal Canal D. Michel Yaou Tadja, merci d'être passé dans cette émission. Directeur de publication du journal Ouara les Vainqueurs. Magloa Kenvi Teko, merci d'être passé dans cette émission. Directeur de publication du journal Flambeau des Démocrates. Ambroise Kondo, merci d'être passé dans cette émission. Directeur de publication du journal des Guadiens, qui est justement, enfin, tous ces journaux que nous avons cités sont dans les kiosques ce matin. Merci à vous tous qui nous avez suivis, puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez appelés aussi pour vos diverses contributions à ce débat. Merci. On se retrouve demain, vendredi, à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. Je suis Pascal Ossou. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Wachteiner, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Wachteiner, la vie dorée.